Chapitre 1er. Les herboriseurs, la souricière philosophe. Les événements que nous venons de raconter s'étaient passés le vendredi soir. C'était donc le surlendemain que devait avoir lieu dans le bois de Lucienne cette promenade dont Rousseau se faisait une si grande fête. Gilbert, indifférent à tout depuis qu'il avait appris le prochain départ d'André pour Trianon, Gilbert avait passé la journée tout entière appuyé au rebord de sa lucarne. Pendant cette journée, la fenêtre d'André était restée ouverte et une fois ou deux, la jeune fille s'en était approchée, faible et pâlie, pour prendre l'air. Et il avait semblé à Gilbert, en la voyant, qu'il n'eût pas demandé au ciel autre chose que de savoir André destiné à habiter éternellement ce pavillon, d'avoir pour toute sa vie une place à cette mansarde, et deux fois par jour d'entrevoir la jeune fille comme il l'avait entrevue. Ce dimanche tant appelé arriva enfin. Dès la veille, Rousseau avait fait ses préparatifs, ses souliers soigneusement cirés, la briguerie, chaud et léger tout ensemble, avait été tirée de l'armoire au grand désespoir de Thérèse, qui prétendait qu'une blouse ou un sarrau de toile était bien suffisant pour un pareil métier. Mais Rousseau, sans rien répondre, avait fait à sa guise. Non seulement son costume, mais encore celui de Gilbert, avait été revu avec le plus grand soin, et il s'était augmenté de bas irréprochables et de souliers neufs, dont Rousseau lui avait fait une surprise. La toilette de l'herbier aussi était fraîche. Rousseau n'avait pas oublié sa collection de mousse destinée à jouer un rôle. Rousseau, impatient comme un enfant, se mit plus de 20 fois à la fenêtre pour savoir si telle ou telle voiture qui roulait n'était pas le carrosse de monsieur de Jussieu. Enfin, il aperçut une chaise bien vernie, des chevaux richement harnachés, un vaste cocher poudré stationnant devant sa porte. Il courut aussitôt dire à Thérèse « Le voici, le voici !» et à Gilbert « Vite, Gilbert, vite, le carrosse nous attend !» « Eh bien, dit aigrement Thérèse, puisque vous aimez tant à rouler en voiture, pourquoi n'avez-vous pas travaillé pour en avoir une, comme monsieur de Voltaire ?»« Allons donc, grommela Rousseau. Dame, vous dites toujours que vous avez autant de talent que lui. »« Je ne dis pas cela, entendez-vous, cria Rousseau, fâché à la ménagère. Je dis, je ne dis rien. » Et toute sa joie s'envola, comme cela arrivait chaque fois que ce nom ennemi retentissait à son oreille. Heureusement, monsieur de Jussieu entra. Il était pommadé, poudré, frais comme le printemps. Un admirable habit de gros satin des Indes à côtes, couleur gris de lin, une veste de taffetas, lilas clair, des bas de soie blanc d'une finesse extrême et des boucles d'or poli composaient son accoutrement. En entrant chez Rousseau, il emplit la chambre d'un parfum varié que Thérèse respira sans dissimuler son admiration. « Que vous voilà beau !» dit Rousseau en regardant obliquement Thérèse et en comparant des yeux sa modeste toilette et son équipage volumineux de botaniste avec la toilette si élégante de monsieur de Jussieu. « Mais non, j'ai peur de la chaleur !» dit l'élégant botaniste. « Et l'humidité des bois, vos bas de soie, si nous herborisons dans les marais ?»« Oh que non, nous choisirons nos endroits. Et les mousses aquatiques, nous les abandonnerons donc pour aujourd'hui ?»« Oh, ne nous inquiétons pas de cela, chers confrères. On dirait que vous allez au bal et chez les dames. »« Pourquoi ne pas faire honneur d'un bas de soie à dame nature ?» répliqua monsieur de Jussieu, un peu embarrassé. « N'est-ce pas une maîtresse qui vaut la peine qu'on se mette en frais pour elle ?» Rousseau n'insista pas. Du moment que monsieur de Jussieu invoquait la nature, il était d'avis lui-même qu'on ne pouvait jamais lui faire trop d'honneur. Quant à Gilbert, malgré son stoïcisme, il regardait monsieur de Jussieu avec un œil d'envie. Depuis qu'il avait vu tant de jeunes élégants rehausser encore avec la toilette les avantages naturels dont ils étaient doués, il avait compris la frivole utilité de l'élégance, et il se disait tout bas que ce satin, cette batiste, cette dentelle donnerait bien du charme à sa jeunesse, et que, sans aucun doute, au lieu d'être vêtu comme il l'était, s'il était vêtu comme monsieur de Jussieu et qu'il rencontra André, André le regarderait. on partit au grand trot de deux bons chevaux danois. Une heure après le départ, les botanistes descendaient à Bougival et coupaient vers la gauche par le chemin des châtaigniers. Cette promenade, merveilleusement belle aujourd'hui, était à cette époque d'une beauté au moins égale, car la partie du coteau que s'apprêtaient à parcourir nos explorateurs, boisée déjà sous Louis XIV, avait été l'objet de soins constants depuis le goût du souverain pour Marly. Les châtaigniers aux rugueuses écorces, aux branches gigantesques, aux formes fantastiques, qui tantôt imitent dans leur noueuse circonvolution le serpent s'enroulant autour du tronc, tantôt le taureau renversé sur l'étal du boucher et vomissant le sang noir, le pommier chargé de mousse et les noyers, colosses dont le feuillage passe en juin du vert jaune au vert bleu, cette solitude, cette aspérité pittoresque du terrain qui monte sous l'ombre des vieux arbres jusqu'à dessiner une vive arête sur le bleu mat du ciel, toute cette nature puissante, gracieuse et mélancolique plongeait Rousseau dans un ravissement inexprimable. Quant à Gilbert, calme mais sombre, toute sa vie était dans cette seule pensée « André quitte le pavillon du jardin et va à Trianon ». Sur le point culminant de ce côté que gravissaient à pied les trois botanistes, on voyait s'élever le pavillon carré de Lucienne. La vue de ce pavillon, d'où il avait fui, changea le cours des idées de Gilbert pour le ramener à des souvenirs peu agréables, mais dans lesquels n'entrait aucune crainte. En effet, il marchait le dernier, voyait devant lui deux protecteurs et se sentait bien appuyé. Il regarda donc Lucienne comme un naufragé et voit du port le banc de sable sur lequel il brisa son navire. Rousseau, sa petite bêche à la main, commençait à regarder le sol. Monsieur de Jussieu aussi, seulement, le premier cherchait des plantes, le second tâchait de garantir ses bas de l'humidité. « L'admirable Lépopodium, dit Rousseau. Charmant, répliqua monsieur de Jussieu, mais passons, voulez-vous. Ah, la Lysimachia fenella, elle est bonne à prendre, voyez. Oh, prenez-la si ça vous fait plaisir. Mais ah ça, mais nous n'herborisons donc pas. Si fait, mais je crois que sur le plateau, là-bas, nous trouverons mieux. Comme il vous plaira, allons donc. Quelle heure est-il ? Demanda monsieur de Jussieu. Dans ma précipitation à m'habiller, j'ai oublié ma montre. Rousseau tira de son gousset une grosse montre d'argent. 9 heures, dit-il. Si nous nous reposions un peu, voulez-vous ? Demanda monsieur de Jussieu. Oh, que vous marchez mal, dit Rousseau. Voilà ce que c'est que d'herboriser en souliers fins et en bas de soie. J'ai peut-être faim, voyez-vous. « Eh bien, alors déjeunons, le village est à un quart de lieue. Non pas, s'il vous plaît. Comment non pas? Avez-vous donc à déjeuner dans votre voiture? Voyez-vous là-bas, dans ce bouquet de bois ?» fit monsieur de Jussieu, en étendant la main vers le point de l'horizon qu'il voulait désigner. Rousseau se hissa sur la pointe du pied et mit sa main sur ses yeux en guise de visière. « Je ne vois rien, dit-il. « Comment, vous n'apercevez pas ce petit toit rustique ?»« Non. »« Avec une girouette et des murs de paille blanche et rouge, une sorte de chalet. »« Oui, je crois, oui, une maisonnette neuve. »« Un kiosque, c'est cela. »« Eh bien, nous trouverons là le modeste déjeuner que je vous ai promis. »« Soit, dit Rousseau. Avez-vous faim, Gilbert ?» Gilbert, qui était resté indifférent à ce débat et coupait machinalement des fleurs de bruyère, répondit « Comme il vous sera agréable, monsieur. »« Allons-y donc, s'il vous plaît, » fit monsieur de Jussieu. « D'ailleurs, rien ne nous empêche d'herboriser en route. »« Oh, votre neveu, dit Rousseau, est plus ardent naturaliste que vous. J'ai herborisé avec lui dans le bois de Montmorency. Nous étions bien peu de monde. Il trouve bien, il cueille bien, il explique bien. » Écoutez donc, il est jeune, lui, il a son nom à faire. N'a-t-il pas le vôtre qui est tout fait? Ah, confrère, vous herborisez en amateur. Allons, ne nous fâchons pas, mon philosophe. Tenez, voyez le beau Plantago Monantos. En avez-vous comme ça chez vous, dans votre Montmorency? Ma foi, non, dit Rousseau charmé, je l'ai cherché en vain sous la foi de Tournefort. Ah, magnifique en vérité. Oh, le charmant pavillon, dit Gilbert, qui était passé de l'arrière-garde à l'avant-garde. Gilbert a faim, répondit monsieur de Jussieu. Oh, monsieur, je vous demande pardon, j'attendrai sans impatience que vous soyez prêt. D'autant plus qu'herborisé après manger ne vaut rien pour la digestion, et puis l'œil est lourd, le dos paresseux. Herborisons donc encore quelques instants, dit Rousseau. Mais comment nommez-vous ce pavillon ? La souricière, dit monsieur de Jussieu, se souvenant du nom inventé par monsieur de Sartine. Quel singulier nom ! Oh, vous savez, à la campagne, il n'y a que des fantaisies. À qui sont cette terre, ces bois, ces beaux ombrages ? Je ne sais pas trop. Vous connaissez le propriétaire, cependant, puisque vous y allez manger, dit Rousseau, en dressant l'oreille avec un commencement de soupçon. Pas du tout, ou plutôt je connais ici tout le monde, les gardes-chasse qui m'ont vu 100 fois dans leur taillis, et qui savent que me saluer, m'offrir un civet de lièvre ou un salmi de bécasse, c'est plaire à leur maître. Les gens de toutes les seigneuries voisines me laissent faire ici, comme chez moi. Je ne sais trop si ce pavillon est à madame de Mirepoix, ou à madame Négmont, ou, ma foi, oh, je ne sais plus. Mais le principal, mon cher philosophe, et votre avis sera le mien, je le présume, c'est que nous y trouverons du pain, des fruits et du pâté. Le ton de bonhomie avec lequel monsieur de Jussieu prononça ces paroles dissipa les nuages qui déjà s'entassaient sur le front de Rousseau. Le philosophe secoua ses pieds, se frotta les mains, et monsieur de Jussieu entra le premier dans le sentier moussu qui serpentait sous les châtaigniers conduisant au petit ermitage. Derrière lui vint Rousseau, toujours glanant dans l'herbe. Gilbert avait repris son poste, fermé la marche, rêvant à André et au moyen de la voir quand elle serait à Trianon. Au sommet de la colline, gravie assez péniblement par les trois botanistes, s'élevait un de ces petits réduits en bois rustique, aux colonnes noueuses, aux pignons aigus, aux fenêtres tapissées de lierre et de clématite, véritables importations de l'architecture anglaise, ou plutôt des jardiniers anglais, lesquels imitent la nature, ou pour mieux dire, inventent une nature à eux, ce qui donne une certaine originalité à leurs créations mobilières et à leurs inventions végétales. Les Anglais ont inventé les roses bleues, et leur plus grande ambition a toujours été l'antithèse de toutes les idées reçues. Un jour, ils inventeront les lys noirs. Ce pavillon, assez spacieux pour contenir une table et 6 chaises, était carrelé en briques sur champ. Ces briques étaient revêtues d'une natte. Quant aux murs, ils étaient faits de petites mosaïques de cailloux choisis sur la berge de la rivière et de coquillages ultra-sécaniens. Car les grèves de Bougival et de Port-Marly n'étalent pas au regard du promeneur l'oursin, la coquille de Saint-Jacques ou les conques nacrées et rosées qu'il faut chercher à Harfleur, à Dieppe ou sur les récifs de Sainte-Adresse. Le plafond était en relief, des pommes de pin, des souches d'une physionomie étrange imitant les plus hideux profils de faunes ou d'animaux sauvages semblaient suspendues sur la tête des visiteurs. En outre, on voyait, par des vitres de couleur, suivant que l'on regardait par un vert violet, rouge ou bleu, ici la plaine ou le bois du Vésinet, teinté comme par un ciel d'orage, là, resplendissant sous la brûlante haleine d'un soleil doux, les plus hauts froids et ternes comme par une gelée de décembre. Il ne s'agissait que de choisir sa vitre, c'est-à-dire son goût, et de regarder. Ce spectacle divertit beaucoup Gilbert, et il observa par tous les losanges le riche bassin qui se déploie au regard du haut de la colline de Lucienne et au milieu duquel serpente la Seine. Un spectacle cependant aussi intéressant, du moins monsieur de Jussieu le jugeait-il de la sorte, c'était le charmant déjeuner servi sur la table de bois rocailleux au milieu du pavillon. La crème exquise de Marly, les beaux abricots et les prunes de Lucienne, les crépinettes et les saucisses de Nanterre fumantes dans un plat de porcelaine, sans qu'on eût vu un seul domestique les apporter, les fraises toutes riantes dans un charmant panier tapissé de feuilles de vigne, et à côté, d'un beurre éblouissant de fraîcheur, le gros pain bis du villageois et le pain de Grouot doré, cher à l'estomac blasé de l'habitant des villes. Voilà ce qui fit jeter un petit cri d'admiration à Rousseau, philosophe s'il en fut, mais gourmet naïf, parce qu'il avait l'appétit aussi vif que le goût modeste. « Quelle folie !» dit-il à monsieur de Jussieu. « Le pain et les fruits, voilà ce qu'il nous fallait, et en corussions-nous dû, en vrai botaniste et en laborieux explorateur, manger le pain et croquer les prunes, sans cesser de fouiller dans les touffes et de creuser les fossés. Vous rappelez-vous, Gilbert, mon déjeuner de Plessis-Piquet, le vôtre ?»« Oui, monsieur, ce pain et ces cerises qui me parurent si délicieux. » « Ah, la bonne heure! Voilà comment déjeunent les vrais amants de la nature !»« Mon cher maître, interrompit monsieur de Jussieu, si vous me reprochez la prodigalité, vous avez tort. Jamais plus modeste service !»« Oh ! S'écria le philosophe, vous dépréciez votre table, seigneur Lucullus !»« La mienne ? Non pas, dit Jussieu. » « Et chez qui sommes-nous donc alors ?» reprit Rousseau, avec un sourire qui témoignait à la fois de sa contrainte et de sa bonne humeur. « Chez les lutins ?»« Ou des fées ?» dit en se levant monsieur de Jussieu, avec un regard perdu vers la porte du pavillon. « Des fées ! » s'écria Rousseau avec gaieté. « Alors béni soit-elle pour leur hospitalité. J'ai faim. Mangeons, Gilbert. » Et il se coupa une tranche fort respectable de pain bis, passant le pain et le couteau à son élève. Puis, tout en mordant au milieu de la mie compacte, il choisit un couple de prunes sur l'assiette. Gilbert hésitait. « Allez, allez, dit Rousseau, les fées s'offenseraient de votre retenue et croiraient que vous trouvez leur festin incomplet. Ou indigne de vous, messieurs !» articula une voix argentine à l'entrée du pavillon, où se présentèrent, bras dessus, bras dessous, deux femmes fraîches et belles, qui, le sourire sur les lèvres, faisaient signe à monsieur de Jussieu de modérer ses salutations. Rousseau se retourna, tenant de la main droite le pain échancré et de la gauche une prune entamée. Il vit ces deux déesses, ou du moins elles lui parurent telles par la jeunesse et la beauté. Il les vit et demeura stupéfait, saluant et chancelant. « Oh, madame la comtesse, dit monsieur de Jussieu, vous ici, l'aimable surprise. « Bonjour, cher botaniste, dit l'une des dames avec une familiarité et une grâce toute royale. « Permettez que je vous présente monsieur Rousseau, dit Jussieu, en prenant le philosophe par la main qui tenait le pain bis. » Gilbert, lui aussi, avait vu et reconnu les deux femmes. Il ouvrit donc de grands yeux et, pâle comme la mort, regardait par la fenêtre du pavillon avec l'idée de se précipiter. « Ah, bonjour, mon petit philosophe !» dit l'autre dame à Gilbert, anéanti, en lui caressant la joue d'un petit soufflet de ses trois doigts rosés. Rousseau vit et entendit. Il faillit étrangler de colère. Son élève connaissait les deux déesses et était connu d'elles. Gilbert faillit se trouver mal. « Ne reconnaissez-vous pas madame la comtesse ?» dit Jussieu à Rousseau. « Non, fit celui-ci hébété, c'est la première fois, il me semble. »« Madame du Barry, » poursuivit Jussieu. Rousseau bondit comme s'il eût marché sur une plaque rougie. « Madame du Barry ! » s'écria-t-il. « Moi-même, monsieur, dit la jeune femme avec toute sa grâce, moi qui suis bien heureuse d'avoir reçu chez moi et vu de près un des plus illustres penseurs de ce temps. »« Madame du Barry, répéta Rousseau, sans s'apercevoir que son étonnement devenait une grave offense. « Elle, et sans doute que ce pavillon est à elle, sans doute que c'est elle qui me donne à déjeuner. » Vous avez deviné, mon cher philosophe, c'est elle et madame sa sœur, continua Jussieu, mal à l'aise devant ces éléments de tempête. Sa sœur, qui connaît Gilbert? Intimement, monsieur, répondit mademoiselle Chon, avec cette audace qui ne respectait ni humeur royale, ni boutade de philosophe. Gilbert chercha des yeux un trou assez grand pour s'y abîmer tout entier, tant brillait redoutablement l'œil de monsieur Rousseau. « Intimement ? » répéta ce dernier. « Gilbert connaissait intimement madame, et je n'en savais rien. Mais alors j'étais trahi, mais alors on se jouait de moi ?» Chon et sa sœur se regardèrent en ricanant. Monsieur de Jussieu déchira une maline qui valait bien 40 louis. Gilbert joignit les mains, soit pour supplier Chon de se taire, soit pour conjurer Rousseau de lui parler plus gracieusement. Mais au contraire, ce fut Rousseau qui se tut et Chon qui parla. « Oui, dit-elle, Gilbert et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Il a été mon hôte, n'est-ce pas, petit? Est-ce que tu serais déjà ingrat envers les confitures de Luciel et de Versailles ?» Ce trait porta le dernier coup. Les bras de Rousseau s'allongèrent comme deux ressorts et retombèrent à son côté. « Ah ah » fit-il en regardant le jeune homme de travers. « C'est comme cela, petit malheureux ?»« Monsieur Rousseau, » murmura Gilbert. « Eh bien, mais on dirait que tu pleures d'avoir été choyé de ma main, » continua Chon. « Je me doutais que tu étais un ingrat. »« Mademoiselle, » supplia Gilbert. « Petit, » dit Madame du Barry, « reviens à Lucienne. Les confitures et Zamor t'attendent. Et quoique tu en sois sorti d'une façon singulière, tu y seras bien reçu. » « Merci, madame, » fit sèchement Gilbert. « Quand je quitte un endroit, c'est que je ne m'y plais pas. » « Et pourquoi refuser le bien qu'on vous offre ?» interrompit Rousseau avec aigreur. « Vous avez goûté de la richesse, mon cher Gilbert. Il faut vous y reprendre. Mais monsieur, puisque je vous jure... Allez, allez, je n'aime pas ceux qui soufflent le chaud et le froid. Mais vous ne m'avez pas entendu, monsieur Rousseau. Si fait. Mais je me suis échappé de Lucienne, où l'on me tenait renfermé. Piège. Je connais la malice des hommes. » Et puisque je vous ai préféré, puisque je vous ai accepté pour hôte, pour protecteur, pour maître. Hypocrisie. Cependant, monsieur Rousseau, si je tenais à la richesse, j'accepterais l'offre de ces dames. Monsieur Gilbert me trompe souvent une fois, jamais deux. Vous êtes libre, allez où vous voudrez. Mais où, grand Dieu, s'écria Gilbert, abîmé dans sa douleur parce qu'il voyait à jamais perdu sa fenêtre et le voisinage d'André et tout son amour, parce qu'il souffrait dans sa fierté d'être soupçonné de trahison, parce qu'il voyait méconnu son abnégation, sa longue lutte contre la paresse et les appétits de son âge qu'il avait si courageusement vaincu. « Où, dit Rousseau, mais d'abord chez madame, qui est une belle et excellente personne. » « Oh, mon Dieu !» s'écria Gilbert, roulant sa tête dans ses mains. « N'ayez pas peur, lui dit monsieur de Jussieu, profondément blessé, comme homme du monde, de l'étrange sortie de Rousseau contre les dames. N'ayez pas peur, on aura soin de vous, et ce que vous perdrez, eh bien, on tâchera de vous le rendre. « Vous le voyez, » fit Rousseau acrimonieusement. « Voilà monsieur de Jussieu, un savant, un habile de la nature, un de vos complices. » ajouta-t-il avec un effort grimaçant pour sourire, lequel vous promet assistance et fortune. Comptez-y, monsieur de Jussieu a le bras long. Cela dit, Rousseau, ne se possédant plus, salua les dames avec des réminiscences d'Orosman et en fit autant à monsieur de Jussieu consterné, puis, sans même regarder Gilbert, sortit tragiquement du pavillon. « Oh, la laide bête qu'un philosophe !» dit tranquillement Chon en regardant le Genevois qui descendait, ou plutôt qui dégringolait le sentier. « Demandez ce que vous voudrez, » dit monsieur de Jussieu à Gilbert, qui tenait toujours son visage enseveli dans ses mains. « Oui, demandez, monsieur Gilbert, » ajouta la comtesse avec un sourire à l'adresse de l'élève abandonné. Celui-ci releva sa tête pâle, écarta les cheveux que la sueur et les larmes avaient collés à son front, et d'une voix assurée, « Puisqu'on veut bien m'offrir un emploi, dit-il, je désire entrer comme aide jardinier à Trianon. » Chon et la comtesse se regardèrent, et de son pied mutin, Chon alla effleurer le pied de sa sœur avec un triomphant clin d'œil. La comtesse fit de la tête signe qu'elle comprenait parfaitement. « Est-ce faisable, monsieur de Jussieu ?» demanda la comtesse. « Je le désire. »« Puisque vous le désirez, madame, » répondit celui-ci, « c'est fait. » Gilbert s'inclina et mit une main sur son cœur qui débordait de joie après avoir été noyé de tristesse.